Chapitre 17. Si l'hiver avait des avantages pour le rendez-vous nocturne, il avait aussi ses surprises et ses dangers. Une nuit de janvier, lorsque Lavaupallière voulut repartir pour entrer à l'hôtel de la Renaissance, ils virent, en ouvrant la porte du vestibule, que pendant les 3 heures qu'ils avaient passées ensemble, une épaisse couche de neige était tombée qui emplissait la petite cour à une hauteur de 25 ou 30 centimètres. À minuit, le ciel était sombre, le temps froid, mais rien n'annonçait d'une façon certaine cette chute de neige, à laquelle d'ailleurs ils n'avaient pensé ni l'un ni l'autre. Maintenant, les étoiles brillaient dans le ciel éclairci, et la gelée pinçait ferme. Comment gagner la porte de la ruelle sans laisser des empreintes dans la neige ? Dit-il en se tournant vers elle. Et comment ouvrir la porte sans qu'elle fasse un tas de neige ? Me voilà muré ici, dit-il décontenancé. Il est certain que je ne peux pas me lever avant l'année pour balayer la neige dans laquelle tu aurais laissé la trace de tes pas. Ce serait le meilleur moyen de dénoncer nos entrevues. Et puis, il resterait toujours celle de la ruelle, puisque la neige ne semble pas disposée à reprendre pour les couvrir. Alors ? Évidemment, la situation était critique, et par cette neige sans consistance, Lavaupallière se trouvait aussi solidement murée que si des ouvriers magiciens avaient construit, entre la maison et la porte de la ruelle, une maçonnerie inattaquable et infranchissable. « Rentrons, » dit Madame Courteuse en repoussant doucement la porte, « et cherchons. » Ils revinrent dans le salon. « Eh bien, » demanda-t-il après un moment de silence embarrassé. « Je ne vois qu'une chose à faire. »« C'est ?» Que tu montes dans ma chambre où tu attendras le jour. Tu veux ? Vois-tu un moyen de franchir ce petit espace de neige immaculé sans que l'empreinte de tes pas dans la cour comme dans la ruelle et même sur le quai ou dans la rue ne dise que quelqu'un est sorti d'ici cette nuit ? C'est ce moyen que je te demande précisément. Et comme je n'en trouve pas plus que tu n'en trouves toi-même, c'est qu'il n'y en a pas. Donc ce serait folie de s'obstiner contre une difficulté insurmontable. C'est pourquoi je te propose de la tourner. » Comme il l'écoutait d'un air sombre, elle le secoua par le bras. « Mais ris donc !»« Je n'en ai nulle envie. »« Ça se voit. Si tu crois que la situation est drôle, elle n'est pas plus tragique pour toi que pour moi. »« Elle te fait sourire. » Parce que, malgré ce qu'elle a de grave, ou plutôt à cause de ce qu'elle a de grave, elle va réaliser une espérance qui me dévore depuis que nous nous aimons et que je n'osais même pas préciser. T'avoir à moi une nuit entière, non dans la banalité de ce salon, mais dans l'intimité de ma chambre. Il y a longtemps que je voulais te demander de me donner cette joie, j'ai toujours reculé. Tu as bien fait, c'est fou! Ce qui pouvait paraître fou quand nous n'étions pas obligés de le faire, ne l'est plus aujourd'hui que nous n'avons que ce moyen de nous tirer d'embarras. D'ailleurs, tu t'exagères cette folie. Je n'exagère rien. Dans ta chambre, à 2 pas de ton mari qui peut s'éveiller, je te répète que c'est fou. Pas plus et pas moins que tout ce que nous sommes obligés de risquer pour nous voir. Enfin, je ne monterai pas dans ta chambre. Elle ne laissa paraître ni dépit ni découragement devant cette réponse formulée si nettement qu'on devait la croire immuable. « Tu ne te rends pas compte des choses, » dit-elle doucement et en l'enveloppant d'un tendre regard. « Tu sais quelle est la force de ce sommeil. Mon mari ne se réveillera pas avant 8 heures, quel que soit le bruit qu'on fasse. Rien donc à craindre de son côté. L'expérience acquise est là pour l'affirmer. » À 5h30, Célanie descendra et frappera 3 coups à la cloison du vestibule pour demander que la sonnerie soit arrêtée. Comme je n'aurai pas relevé le levier de l'interrupteur, je n'aurai pas à la baisser, ce que je suis censée faire les jours de grand sommeil. Aussitôt descendue, elle ouvrira les volets partout, balayera l'étude, allumera votre poêle ainsi que le feu dans le cabinet. Puis, elle fera des chemins à travers la neige dans la cour et le jardin. C'est à ce moment que tu descendras pour t'installer tranquillement à ta place, sans qu'on puisse supposer que tu es entré autrement que par la grille. Rien n'est plus simple, plus facile et n'offre moins de danger. » Il voulut se défendre, mais pour repousser ce qu'elle proposait, il fallait offrir autre chose et il ne trouvait rien. Après quelques minutes de discussion, il dut reconnaître son impuissance. « Tu vois comme tu m'inspires, » dit-elle. « Moi non plus, je n'imaginais rien pour sortir de cette difficulté quand nous sommes rentrés dans ce salon et que tu m'as interrogée. Mais sous ton regard, cette idée m'est venue comme si tu lui donnais un corps en la façonnant toi-même et je l'ai senti passer de toi en moi. » Je ne trouvais rien. Ce qui n'empêche pas que c'est à ton inspiration, à ta volonté que j'ai obéi. Au reste, c'est toujours comme cela que les choses se passent entre nous. Seule, je suis inerte, stupide, incapable de combiner quoi que ce soit. Tu arrives, tu me regardes, et instantanément, de tes yeux part une étincelle qui met le feu à mon esprit en même temps qu'à mon cœur. Alors je ne pense plus, je ne sens plus, je n'agis plus que par toi. Ce que tu désires, je le devine, ce qui doit être dit, je le dis, cela précisément et non autre chose. Il semble que tu trouves dans ma cervelle un fil mystérieux et que tu le dévides comme celui d'un cocon de verre à soie. Oh, cher, comme tu fais faire ce que tu veux à la docile marionnette qui danse, rit ou pleure au bout de ta main. De sang-froid, il eût pu lui répondre que dans cette circonstance, comme dans tant d'autres d'ailleurs, c'était elle précisément qui lui faisait faire ce qu'elle voulait et ce qu'il ne voulait pas, mais jamais il n'était de sang-froid lorsqu'elle lui parlait de cette voix caressante, avec ses regards passionnés et ses enveloppements onduleux qui dégageaient un afflux de force nerveuse à laquelle il n'avait jamais résisté. Comme elle l'avait annoncé, Célanie, à 5h30, frappa 3 coups bien distincts à la cloison du vestibule, puis presque aussitôt, commença au rez-de-chaussée le tapage des portes, des volets, des fenêtres qui s'ouvraient, se refermaient. Et par la cage de l'escalier leur arrivèrent les uns après les autres les bruits du ménage matinal qui leur disaient où étaient et ce que faisait la bonne au rez-de-chaussée. Cela dura un peu plus de 2 heures. Enfin, à 7h30, après avoir balayé la cour, elle commença un chemin dans le jardin pour aller ouvrir la grille. Sans parler, Madame Courteheuse conduisit la Vaupalière dans le vestibule et sans bruit, elle referma la porte. Tout s'était passé comme elle l'avait prévu et arrangé. Mais elle s'était trompée en pensant qu'on trouverait naturel qu'il fût installé à sa place avant tout le monde. Quand Boulnois arriva et le vit au travail, il manifesta un étonnement gênant. « Je ne vous attendais pas là. »«
J'y suis pourtant. »«
Par où êtes-vous venu ?»
En vélocipède magique, à moins que ce ne soit sur des échasses.
N'empêche que le vélocipède n'a pas creusé de sillon dans la neige et que les échasses n'y ont pas fait de trou. Alors c'est que je suis venu en ballon. Malgré l'envie qu'il en avait, Bouledois ne pouvait pas insister, mais à sa grande joie, quand Fauchon arriva à son tour, les questions recommencèrent. « Ce que j'ai été surpris en ne voyant pas votre lit défait ce matin, » dit le second clerc. « Désormais, quand je voudrai coucher à Rouen, je vous demanderai la permission, mon capitaine. »«
Ne vous fichez pas de moi, dites plutôt si c'est une blonde ou une brune. »«
C'est une rousse. »«
Une rousse? Quelle chance vous avez! Vous me raconterez ça, hein ?»«
C'est peut-être une honnête dame dont on ne doit pas parler, » dit Boulnois d'un air bonasse.
« C'est la plus jeune fille du diable, monsieur Boulnois, la dernière, sa chérie. »
Je m'en doutais presque.
Parce qu'elle vous fournit des véhicules pour marcher sur la neige sans y enfoncer.
Cette aventure eut pour conséquence forcée de leur imposer une circonspection plus grande. Évidemment, ils avaient tout à craindre de Boulnois qui, une nuit ou l'autre, s'embusquerait dans la ruelle pour y faire bonne garde du soir au matin. Et, avec le hasard, il leur fallait compter aussi, puisque ce qui s'était passé pour la neige pouvait se renouveler. Mais, quelles que fussent les précautions qu'ils prissent, il était certain qu'ils ne pouvaient pas tout prévoir et qu'ils restaient toujours exposés à des surprises et à des dangers. Vers le commencement du printemps, la situation se compliqua encore par l'entrée d'un nouveau clerc. Un gamin de 13 ans, appelé Léon, fils d'un garde de la forêt de Rouvray, qui s'en venait des Essarts le matin pour retourner le soir chez son père, faisant ainsi ses 2 lieues régulièrement à travers les bois. Comme il n'avait pas de parents à Oissel et que l'auberge eût été trop chère pour sa bourse, il mangeait à l'étude, sur le pouce, derrière son pupitre levé, le déjeuner qu'il apportait dans un panier d'écolier,
et sa présence leur enlevait la chance de se voir quelquefois après le départ de Boulnois, puisque maintenant la Vaupalière ne restait plus jamais seule à l'étude, et éloigner ce garçon était, sinon impossible, au moins très imprudent. Cette nouvelle difficulté, s'ajoutant à toutes celles qui, à chaque instant et sur tous les points, les gênaient déjà, ne produisit pas le même effet sur les deux amants. Tout en s'en plaignant, la Vaupalière subissait ce qu'il ne pouvait empêcher, tandis que Madame Courteheuse, comme une révoltée qu'elle était, s'en exaspérait jusqu'à la fureur, jusqu'à la folie. Ce supplice ne prendrait donc jamais fin. Au lieu de s'adoucir, il se ferait donc chaque jour plus cruel. En est-il de plus douloureux, de plus atroce quand on s'aime comme elle aimait et comme elle était aimée, que d'être séparée? Tous les 8 ou 10 jours, ils passaient 2 heures au bras l'un de l'autre, et c'était tout. Après ces 2 heures, qu'elle allongeait quelquefois d'une demi-heure, le néant, l'enfer. Et il fallait recommencer à attendre le prochain rendez-vous, sans même se reposer dans la certitude que le hasard, ou la malchance, la bêtise des gens ou la malice des choses, ne dérangeraient pas ce qu'ils avaient combiné.